pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et en rediffusion toute la semaine sur un tas de radios associatives locales qu'on en profite pour remercier et saluer. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous contacter par différentes messageries au 07 53 10 31 95. Vous pouvez retrouver nos émissions, des lettres de prisonniers, de prisonnières et des textes d'analyse sur notre site internet l'envolée avec 2e.net. Nous écrire par mail à contact@l'envolée.net et nous retrouver aussi sur X, Facebook et Instagram, à l'envolée journal ou l'envolée-du-bas journal. Je ne vous donne pas le numéro du direct car aujourd'hui, donc vendredi 17 juillet 2026, c'est une émission pré-enregistrée. Et pour commencer, je vais donc, comme d'habitude, rappeler qu'est-ce que c'est que l'envolée. Donc l'envolée, c'est cette émission de radio et un journal qui paraît entre 2 et 3 fois par an et qui donne la parole aux personnes enfermées à leurs proches, que ce soit les personnes enfermées donc dans les prisons, les maisons d'arrêt, les maisons centrales, ou également dans les prisons pour sans-papiers, donc les centres de rétention administrative, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques, bref, tous les lieux d'enfermement. Et à partir de ces liens établis avec donc les personnes qui subissent en première ligne Ces enfermements, l'idée, c'est d'élaborer une critique, voilà, de cette société qui construit ses cachots et qui en a besoin, pour tenir. Et voilà, on fait ça depuis 2001. Donc on relaie à la fois des lettres, des témoignages, des communiqués, des chroniques de procès, des analyses de lois. Et donc au programme de cette émission, donc on va vous bricoler principalement deux enregistrements qui viennent de deux émissions camarades, à savoir Bruit de tôle donc sur Canal Sud et Chronique Amère, donc qui est l'émission de Alarm Phone, que je représenterai plus après, mais avant, en début d'émission, vous voulez un peu donner des nouvelles des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, les QLCO qui ont déjà ouvert donc à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe et dont on a pas mal parlé cette année, et parce que il y a au QLCO 3 de Vendin-le-Vieil, on nous a appris que ça fait quelque temps là qu'il y a un mouvement qui a démarré avec des luttes collectives, même des prisonniers qui auraient réussi à monter sur le toit, et déjà six personnes qui auraient pris du mitard. Mais malgré grosse présence des équipes cagoulées des ERIS, le mouvement qui s'étendrait déjà au QLCO 2. Et dans le même temps, à Condé, les matons du QLCO qui sont bien énervés du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dont on parlait dans cette émission la semaine dernière, et donc qui dénonçait une violence systémique et des pratiques absolument horribles et déshumanisantes de la part des matons dans ce QLCO de Condé. Et donc les matons qui ont très mal pris la publication de ce rapport et qui du coup le font payer aux prisonniers. Et donc ils font sauter notamment des promenades aux prisonniers, sachant qu'on est en pleine canicule, ça veut dire des prisonniers obligés de rester à bouillir en cellule. Ils font aussi sauter des cantines, sachant que les cantines sont déjà bien restreintes dans le choix qu'il y a au QLCO. Et aussi ils font sauter les visios avec les familles, qui est en fait un acquis, on en avait parlé, au QLCO de Condé-sur-Sarthe, il y a eu un mouvement collectif là au printemps pour dénoncer à la fois les matons nazis, ouvertement nazis, les violences et les fouilles à nu humiliantes, et aussi pour obtenir en fait une amélioration du lien avec les proches, parce que pour l'instant il n'y a que quelques créneaux par semaine pour pouvoir appeler via la cabine, et qui sont des créneaux qui correspondent jamais au temps, aux disponibilités des enfants notamment, et aussi les conditions de parloir qui sont absolument terribles. On en avait parlé dans une émission, on avait fait intervenir des proches qui dénonçaient les conditions de parloir particulièrement traumatisantes et humiliantes. Et donc du coup, les prisonniers avaient obtenu des visios pour pouvoir échanger avec leurs proches, et donc ces visios sont déjà annulé par les matons, donc qui menace de Condé, qui menace de faire grève. Donc on continuera à donner des nouvelles de ces mouvements dans les QLCO. D'ici là, plein de force aux prisonniers qui sont enfermés, à leurs proches, en particulier plein de force à ceux qui sont au mitard. Donc on va maintenant vous passer un enregistrement extrait d'une émission donc de Bruit de tôle, une émission anticarcérale qui passe sur Canal Sud à Toulouse et sa région un jeudi sur deux. Et c'est un entretien, une discussion avec Nasser qui a été un correspondant de l'Envolée quand il était derrière les barreaux et qui est, ça fait plaisir aujourd'hui dehors, et qui là revient donc au micro des camarades de Bruit de tôle sur la déradicalisation, notamment les quartiers de déradicalisation et tous les mécanismes qui sont mis en place pour soi-disant détecter et traiter la radicalisation des personnes enfermées. On en avait parlé dans cette émission il y a un mois parce qu'on avait relayé l'histoire de Salim qui a été donc pris en charge, enfermé au quartier de prise en charge de la radicalisation, donc un QPR à la santé depuis janvier 2026. Donc pour rappel, c'est des quartiers particuliers, on est isolé du reste de la détention et dans lesquels on peut être placé après avoir passé 17 semaines en quartier d'évaluation de la radicalité. Donc encore ce genre d'endroit où on est soumis à toute une batterie d'experts en tout genre qui vont déterminer si oui ou non on est radicalisé. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, est-ce qu'on va aller au quartier d'isolement ou au quartier donc de prévention, de prise en charge de la radicalisation? pour éviter de contaminer, entre guillemets, le reste de la détention et d'autres prisonniers. Sauf qu'en fait, on sait très bien que c'est souvent en mettant des personnes côte à côte dans une même cellule ou dans une même promenade que l'administration pénitentiaire crée des fiches, crée des profils en disant, ah bah tu as traîné avec une personne fichée grand banditisme ou fichée terroriste, et du coup tu as aussi sûrement ce genre de tendance désormais. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est donc c'est une discussion un peu à bâton rompu, donc avec Nasser, qui lui raconte de son point de vue assez particulier, parce que de fait dans ces quartiers de prise en charge de la radicalisation, c'est essentiellement des personnes accusées de terrorisme ou de ce genre de choses qui sont placées. Mais lui, il s'est retrouvé là plus pour des motifs, on va dire, de militantisme d'extrême gauche. Et donc voilà, il faisait un peu figure d'exception dans ce dispositif. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut raconter un peu l'absurdité de ces pseudo-suivis et encadrements, et aussi des pseudo-experts qui viennent évaluer les personnes qui y sont placées. Donc voilà, on vous laisse avec les camarades de BritTall pour écouter cette discussion.
BritTall, une émission contre la prison et son monde.
Flic, juge, maton, c'est toi la formule chef. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant dans l'exercice sur la détention.
Les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 19h à 20h.
En direct sur Canal Sud 92.2.
Rediffusion les premiers et troisièmes vendredis du mois de 17h à 18h.
BritTall, une émission contre la prison et son monde. La prison, les centres de rétention, c'est Club Med. On y serait logé, blanchi, nourri, le luxe quoi. Et à la radio, à la télé, dans les journaux, le cliché à la peau dure. BritTall fait entendre d'autres voix. Celle des personnes enfermées, discriminées, victimes de la répression. C'est aussi la parole de celles et ceux qui luttent contre l'institution policière et judiciaire et contre cette société qui enferme toujours plus et toujours les mêmes, pauvres et ou racisés, rebelles, sans papiers, etc. La prison, comme l'école, l'hôpital, la famille et tous les lieux d'enfermement, divise, isole, catégorise et hiérarchise. Enfermé pour mieux régner, l'idée n'est pas nouvelle. Ce n'est qu'un outil de contrôle de plus pour maintenir l'ordre établi, classiste, raciste et patriarcal. La prison n'a pas toujours existé et elle doit disparaître.
Alors vous écoutez BritTall et nous recevons et nous accueillons Nasser.
Bonjour.
Bonjour. Et on va parler par rapport à ton expérience de la prison. On a choisi de façon aléatoire un des sujets. Ce sujet, c'est la déradicalisation. C'est vrai que les médias en parlent beaucoup, et ça serait quand même intéressant de faire un petit peu le tour du sujet. Alors moi j'avais une première question, j'ai perdu mon papier où j'avais mis des questions, si c'est là. Mais qui est désigné comme susceptible, ah oui ça s'appelle, susceptible de tomber en radicalisation?
Ouais. Non en fait ouais, je vais préciser. Précise, ouais. D'abord ouais. Ouais, je me situe quand même d'où
voilà.
Je parle.
Oui pardon.
Et donc moi je suis un vieux militant, je suis maintenant quinquagénaire, vieux militant libertaire. Et avant le mouvement des Gilets jaunes, j'étais investi bon, sur la militance à Perpignan. Mais avant le milieu des Gilets jaunes, je suis toujours passé entre les gouttes au niveau répression. J'ai fait pas mal de gardes à vue et tout, mais ça n'a jamais découlé sur des poursuites et tout. C'est mon engagement dans les Gilets jaunes et aussi juste avant la création d'un comité Vérité-Justice à propos de, d'un décès qu'il y avait eu à la prison de Perpignan, qui ont fait que bah, j'ai été avec d'autres, enfin ciblé quoi, par, bien davantage par la répression. Donc tout ça, ouais, donc pour situer. Ouais. Et à la suite donc du mouvement des Gilets jaunes, j'ai par un effet d'aubaine, donc la répression pénale s'est abattue sur moi. Et donc je me retrouve en prison, ouais. Donc l'expérience bah, que j'ai eue, elle était, enfin c'était bah, assez riche parce que juste avant, j'ai cultivé pas mal de, enfin savoir, connaissances sur la prison, mais c'était quand même extérieur, quoi.
À la prison. C'était pas du vécu.
Non.
Ça c'est sûr. Oui.
Et je reconnais que quand on, une fois qu'on est de plein pied, bah, directement en situation, c'est les choses changent beaucoup, quoi. Et là, si on a proposé de discuter de, bah, de la déradicalisation et tout, c'est parce que justement, en tant que militant, aussitôt que je me suis retrouvé en zonzon, en prison, eh ben, j'ai fait l'objet d'un traitement un peu particulier, quoi. Et donc, à propos de l'étiquetage que tu venais d'évoquer, j'ai été étiqueté détenu de droit commun susceptible de radicalisation. Droit commun, parce que j'étais un droit commun, tout simplement. Et la spécificité de la situation, c'est que j'étais un militant qui se retrouve en prison. Et là, en fait, ce que je savais plus ou moins, mais je le découvre vraiment réellement, c'est que dès qu'on est militant, bah, en fait, quand on se retrouve en prison, c'est, là encore, il y a encore un effet d'aubaine. C'est l'occasion pour l'état punitif de mettre en branle une politique de, enfin, moi, j'appelle ça de lavage de cerveau, quoi. Et là, la prison, elle joue.
Ils veulent vous soigner, c'est pour soigner les militants, quoi.
Oui. Et donc, voilà, c'est un sigle qui fait un peu barbare et tout, donc DCSR pour droit commun susceptible de radicalisation.
Mais ce que tu dis là, c'est quand même assez étonnant parce que à l'extérieur, quand on pense à déradicalisation, on pense uniquement aux terroristes islamistes.
Oui.
On pense qu'à ça.
Oui.
D'accord.
Ouais, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, quand j'y étais, hein, j'écrivais à des proches, j'expliquais la situation. Et même en sortant, j'ai discuté avec certains proches qui, en plus, sont des militants chevronnés, quoi. Et quand j'évoquais cette question-là, c'est vrai que j'ai souvent suscité de l'étonnement. Parce que les représentations, c'est quoi ? C'est que c'est ne sont concernés. Et ça, c'est peut-être un grand tort des milieux militants de peut-être pas avoir encore pleinement pris conscience. Là, par contre, je m'aventure à faire des remarques. Je m'hasarde à dire des choses qui sont peut-être fausses, hein, mais c'est une impression seulement. Mais peut-être qu'on n'a pas encore pris pleinement la mesure de ce qui va se développer encore davantage et tout. Parce que jusqu'à présent, donc la déradicalisation, ça ciblait tout ce qui relevait du terrorisme islamiste. En prison, j'ai croisé pas mal de jeunes Toulousains et qui sont tombés, qui se sont fait, pour parler un langage carcéral, hein, qui se sont fait péter juste après les attentats de 2015, donc autour de 2016. La plupart ont tous pris 8 ans. Et la spécificité de leur situation, c'est qu'ils relevaient là, par contre, pleinement de la justice d'exception et d'un droit d'exception, et donc ils n'avaient pas droit à tout ce qui est libération conditionnelle. Moi, je suis sorti avec une libération conditionnelle. Eux, ils ont fait leurs 8 ans pleins. Il y a certaines rencontres que j'ai faites qui m'ont marqué. Un jeune Toulousain, par exemple, qui est rentré, mais je crois qu'il n'avait même pas 19 ans, et qui était traumatisé. Pour expliquer comment j'ai pu le rencontrer aussi d'autres. Un jour, je circulais dans la prison, il y a une officier qui me nomme et qui m'invite dans un bureau à un entretien. Ça a été donc mon premier contact avec ce que je nomme les politiques de déradicalisation. J'ai découvert là que je faisais l'objet d'un traitement spécifique. Dans la première convocation, premier entretien, et même le deuxième, ça a été assez hypocrite. Et bon, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais c'était l'officier de renseignement de la prison.
Et qui ne s'est pas présenté
Qui ne s'est pas présenté sous cette identité-là, voilà. Ouais. C'était juste, elle s'inquiétait de comment se passaient mes conditions en détention.
C'est gentil,
ça.
Oui,
elle a amorcé la relation comme ça, ouais. Mm-hmm. Et assez vite, les choses ont été plus explicites, parce que, donc, il y a eu, je l'ai un peu démasqué, mais bon, c'est allé assez vite. Mais en parallèle de ces convocations avec l'officier du renseignement. Et ce qui est important, c'est que je parle d'une expérience singulière, mais en fait, je ne suis pas le seul à le vivre. Hein. C'est quelque chose d'assez commun. C'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler, de faire un retour d'expérience. Quoi,
parce on que... sait que l'approche peut être très délicate, très gentille. C'est ce qu'on dit aussi sur les gardes à vue. Méfiez-vous de l'assistante sociale, du médecin. De
oui, ce c'est genre. Vrai. Bah, c'est, oui. Voilà, c'est très, très pertinent. Ouais, parce
d'abord
que c'est ça.
Parce qu'ils travaillent pour l'administration, et qu'ils sont là pour faire leur boulot et qu'ils notent tout ce que vous dites et qu'ils le transmettent.
Oui, bien sûr.
Déjà.
Ouais. Et donc, je te disais, la mort s'est faite donc de mon traitement spécifique avec les convocations de l'officier du renseignement. Et en parallèle, assez vite, j'ai été convoqué par ce qu'ils appellent en France, ils ont mis tout ça en place depuis les attentats de 2015, hein, dans le cadre de leur politique
2015,
de les attentats qu'il y a eu en France et qui relèvent de ce qu'ils nomment le terrorisme islamiste. Hein. Ouais. Ceux de Toulouse, d'ailleurs, qui se sont fait péter, comme on dit, c'est un peu les catégories du pénal, ça m'intéresse pas beaucoup, mais ils nomment association de malfaiteurs en vue de commettre. Ouais. Donc c'est des gens en fait qui avait rien commis du tout et très très en amont du passage à l'acte. En fait, il y a des catégories qui ont été créées pour neutraliser les gens.
Juste une question, parce que tu nous dis parce que tu étais politisé, alors oui, on en reparlera, on
oui,
sait
militant.
Sous le terrorisme, que ce soit écologique ou autre, ultra-gauche et tout ça, d'accord, mais ton prénom Nasser quand même a dû y faire quelque chose.
Pas du tout, non, c'est vraiment, sûr. non,
c'est pas sur moi,
non,
je pense
pas du tout, pas du parce tout. Qu'en fait ouais, c'est bien
savoir
de,
si,
de poser la question, parce qu'en fait avant de rentrer en détention, je m'étais déjà intéressé à ces questions, bon, et après de plein pied j'en ai fait l'expérience, mais j'ai vraiment pris clairement conscience en zonzon, parce que j'ai demandé, j'ai eu l'autorisation d'avoir un manuel qui a été rédigé par l'Observatoire international des prisons, c'est le guide du prisonnier. Et dedans, il y avait de longs développements sur les politiques de déradicalisation. Et en fait, il y a trois cibles. Il y a ceux qui relèvent du, comme ils appellent ça, le terrorisme islamiste, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc les libertaires, anarchistes, ils relèvent de la catégorie, générique, extrême gauche. Et en fait, c'est ça. Quand j'étais, parce que je disais qu'il y avait, j'étais convoqué par l'officier rendu enseignement, le fameux binôme composé d'un psychologue et d'un éducateur, et il y avait des réunions collectives. C'est là que j'ai rencontré les Toulousains. Et pour le dire de façon crue, en fait, on était des Arabes. Et j'étais le seul qui relevait pas de la catégorie
religion,
islam radical. Moi, c'était réellement pour mes engagements politiques, antérieurs et présents, parce que de toute façon, j'ai jamais changé, je changerai jamais. Donc c'était vraiment très très intéressant. Ouais. Et dans ces réunions collectives, donc il y avait l'éducateur et le psychologue, et ils faisaient intervenir des gens extérieurs, dont par exemple quelqu'un qui était sociologue. J'ai vérifié en sortant, bon, c'est vrai qu'il était estampillé sociologue et tout, mais c'est des gens qui sont complices de choses, complices ils participent à des actions qui sont vraiment pas très glorieuses.
Dans ces groupes, ils essaient quoi? Ils vous font parler?
Ce qui est intéressant, c'est que comme moi, ma spécificité c'était d'être militant politique et tout, ils avaient décidé de nous reprogrammer de toute façon, donc ils allaient parler de ce qui
concerne. Ils n'ont pas
réussi? Non, ils n'ont pas réussi. Mais d'ailleurs, à mon avis, avec personne, c'est assez délirant comme expérience, parce que je pense
c'est curieux leur technique. Donc,
c'est une méthode un peu douce. Il y avait, c'est le seul endroit où on était particulièrement bien traité, comme ici d'ailleurs. J'ai du café et là-bas, on nous offrait le café, des petits gâteaux. C'était assez délirant. Ouais.
On va pas te reprogrammer.
Et donc ils faisaient intervenir des gens de l'extérieur, donc ce sociologue. Ils ont fait intervenir une salariée de l'Institut du Monde Arabe. Et donc ça visait ceux qui étaient censés être radicaux islamistes. Et pareil pour les reprogrammer. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé par le sociologue, c'était le mouvement des Gilets jaunes, évidemment depuis la perspective de l'État, parce que là c'était vraiment dirigé contre moi, parce que j'étais étiqueté, elle m'interrogeait sur ça, l'officier du renseignement, j'étais quand même autorisé aussi, on m'avait demandé si j'étais toujours Gilet jaune dans les premiers convocations, entretiens, et ils étaient très curieux c'était un sujet brûlant encore, quoi. Et pourtant je suis rentré en détention, je ne l'ai pas précisé, en septembre 2021. Mais voilà, donc j'ai
beaucoup... C'était pas vieux.
Oui, Et j'étais en détention d'ailleurs avec des camarades gilets jaunes qui se sont fait péter au même moment que moi.
Il y en a qui ont été poursuivis là en 2025-26.
Je suis toujours poursuivi d'ailleurs sur une affaire gilets jaunes. J'attends un délibéré au mois de mai quoi. Sur
ça leur a foutu la trouille les gilets jaunes. Ils ont eu peur.
Oui, bien sûr. Ouais.
T'avais une question ?
Et les autres personnes les autres gilets jaunes qui étaient avec toi, eux, ils ne se sont pas fait déradicaliser ?
Ils sont sortis un peu vite, mais si, ils faisaient aussi l'objet de l'intérêt très très vif de l'officier du renseignement, justement. Elle me parlait de l'un de mes camarades qui était réputé être très virulent dans les rues de Perpignan, et oui, si. Mais par contre, elle était très très méprisante, c'était quelqu'un de formidable, et sauf que, par exemple, moi, j'ai un peu traîné quand j'étais un peu plus jeune sur les bancs de l'université et tout, donc j'ai un niveau d'éducation supérieur, et donc lui, le camarade, il était présumé être prolo sans éducation, et elle affichait un mépris mais écœurant quoi. Et quand je lui ai rappelé que c'est justement toute l'admiration que j'avais moi pour les camarades avec lesquels j'ai milité dans le mouvement des Gilets jaunes, elle m'a pas trop suivi. Je lui ai juste rappelé que par exemple la Bastille quand elle est tombée, moi j'ai lu des récits formidables, dont celui d'Éric Viard, et c'était justement des gens comme mon camarade quoi. C'était le petit peuple parisien quoi. Et ça elle pouvait pas comprendre, c'était inaccessible. Donc c'est assez bizarre quoi. Il y avait un peu une connivence parce que qui s'était un peu établie avec elle. Enfin, qu'elle s'imagine.
C'est un peu logique avec eux parce que la radicalisation touche parfois des personnes justement instruites qui ont été à l'université, etc. Non.
Le problème c'est que voilà, une fois qu'on reprend les catégories, justement.
Le fait de rentrer à fond dans n'importe quoi. Hein,
mais c'est un mot, justement, c'est ce qui m'a dérangé. C'est intéressant parce que la première fois que j'ai fait face au sociologue, la première question que je lui posais, et je l'ai coincé, je lui ai demandé de nous définir ce que c'était la radicalisation. Ah oui. Et c'est bien parce que ça fait réémerger des souvenirs. Et là, par contre, je pense que je vais vous étonner ceux qui sont ici présents et même les auditeurs, parce que donc à ce sociologue, docteur en sociologie, blabla. J'ai heureusement pas retenu son nom parce qu'il est sans intérêt, mais quand je lui ai demandé ça, je lui ai dit, donc j'étais assez provocateur, je lui ai demandé, mais quand on bloquait le grand marché Saint-Charles, c'est à Perpignan, c'est très connu, c'est là où on est, enfin c'est un marché d'expéditeurs de fruits et légumes pour toute l'Europe, et bien donc on est c'est le seul mouvement depuis des dizaines d'années qui a réussi efficacement à le bloquer, donc vraiment c'est le mouvement était puissant à Perpignan. Donc je lui disais, y a une camarade qui avait plus de 70 ans et qui venait prendre son car pour bloquer les camions, à plus de 70 ans. Donc ça, cette action-là de bloquer les camions, est-ce que c'est... Est-ce que, on le tutoyait, hein, donc est-ce que tu peux... Tu qualifierais ça d'un comportement susceptible d'être déradicalisé et tout? Est-ce que ça fait l'objet de ton intervention? Il m'a dit oui. Très intéressant. Donc, et en fait, il n'y a pas de définition parce que j'ai eu un suivi.
C'est un concept policier,
en fait. Tout simplement. Et donc, il n'y a pas de définition parce que tout simplement, la définition est policière. Comme par exemple, quand on fait l'objet d'une surveillance, du renseignement territorial, après les attentats, en fait, je le sais parce que je l'ai lu, mais le renseignement pénitentiaire, c'est dans la grande famille du renseignement, c'est le dernier, les derniers arrivés, quoi. Et ce qui est intéressant, ce que je vous disais avant qu'on commence en antenne, c'est que quand on est quand on est en 11, c'est la seule fois dans nos vies où en fait la surveillance est explicite. Là, il n'y a pas de problème, ça ne se cache pas et tout. Et ils prennent le relais du renseignement territorial juste avant. Et juste après, évidemment.
Donc là, ils te disent, on sait qui tu es.
Oui, voilà. Et là, c'est explicite. Non, mais là, c'est explicite.
Tes fichiers, tes
oui, bien sûr. Là, c'est explicite.
Alors, pour savoir si on est fiché, il faut qu'on rentre en tôle. Non, quand même.
Non, mais c'était assez intéressant. Je voulais, à propos de ça, dire une chose, mais bon, j'ai oublié, mais bon, c'est pas... Mais
oui, c'est explicite. Là, ils ne se cachent pas. Ils se cachent pas. Ah. Ils disent, on sait qui tu es. Mm. Enfin, qui tu es. Non, ils ne savent pas, justement. Ouais. Mais ils ont tout un historique de, oui, tes actions, de tes actions.
Oui,
quoi.
C'est, enfin, qui sont banales. Hein. J'étais vraiment un militant banal, quoi.
Des gens que tu côtoies,
d'une ville,
etc.
D'une petite ville, oui, très, c'est banal. Ouais. C'est pour ça que c'est d'autant plus inquiétant, ouais. Quand on prend la pleine mesure de... Bah, du flicage généralisé, du niveau de surveillance, c'est assez flippant. Ouais.
Mais d'aller à ces réunions-là...
Convocation.
Donc c'est obligatoire, c'est ça que je voulais dire, c'est volontaire ou obligatoire?
Bah, c'est marrant parce que c'est assez flou, quoi. Sauf que quand on te présente des papiers et tu dois signer, c'est là où c'est super hypocrite. C'est que c'est... Surtout que moi, j'étais, en raison de ma catégorie, donc DCSR, j'étais pas comme les autres. Les autres, eux, ils étaient tombés pour... voilà, enfin, c'était le droit d'exception qui s'appliquait et tout. Moi, j'étais un droit commun. Et on jette le dévolu sur les militants quand ils se retrouvent disponibles. Et en fait, explicitement dans les documents, disons qu'il est dit que...
Ça se trouve, t'aurais pu refuser.
Oui, mais il est dit explicitement que ça te desservirait. Et ce qui est en plus ambigu, c'est que j'étais prévenu. Et pas condamné.
Ah ben oui, pas encore.
Et donc, en fait, et j'étais là pour... pas pour des motifs officiellement politiques.
Là, c'est du chantage sur le procès.
Oui, parce que c'est... Non, mais c'est explicite prévenu, dans les documents. Ouais. Hein, j'ai gardé des copies et tout. Et c'est vrai que c'est assez explicite dans les documents. C'est, tu vois en filigrane qu'en fait, ça te desservirait si tu n'y vas pas. Donc voilà. Mais moi, en fait, j'y suis allé. Mais réellement, j'ai eu un réflexe militant. Parce que j'ai... Bon, on se pose des questions hein, quand on est politisé et tout, sans être même militant, et il y a le goût de savoir et de comprendre. Ouais. Et moi, c'est vraiment... c'est ce qui m'a poussé à... Ouais, à... Il y a eu des prolongements, d'ailleurs. Quand je suis sorti en liberté conditionnelle, pareil.
On t'a contacté?
Oui, non, j'étais suivi par un SPIP classique, mais par contre, j'étais le seul du SPIP dans la ville où j'étais. Donc j'étais en prison à Perpignan, mais après, bon, libération conditionnelle, j'étais chez des proches ailleurs, dans un autre département. Et en fait, il y avait un spécialiste de la déradicalisation qui, à chaque fois que j'étais convoqué, venait. Et donc j'avais un binôme aussi en face de moi, ce qui était assez singulier par rapport aux autres. C'était curieux, ouais. C'était assez... Ouais.
Et quel résultat ils attendaient
C'est très simple, parce qu'ils ont voulu...
Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, quoi, ça, je veux dire.
Ah non, mais en fait, c'est une évaluation. C'est explicite. Hein. Ils sont là et ils font une évaluation. Parce que quand on dit susceptible de radicalisation, sous-entendu violente. Et en fait, là aussi, au niveau de la violence, c'est assez flou. Quoi, parce que, par exemple, la dernière fois que j'ai eu une convocation, là, c'était à l'extérieur, et un entretien avec le spécialiste de la déradicalisation. Bon, il a voulu se montrer quelqu'un libéral et tout. Et donc, le rapport qu'il produisait sur moi, il a voulu me dire ce qu'il allait transmettre. Sauf que quand je lui faisais... très souvent, je faisais des remarques. Et à chaque fois, c'était un peu piégeant parce qu'ils ne savent pas répondre. Par exemple, cette personne, je lui dis « Mais en fait, je suis là, c'est devant vous, à la suite d'un étiquetage policier. » Évidemment, bien antérieur à la prison. Donc, quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, quoi. Mmh. Donc, pareil, j'ai fait l'objet d'une surveillance spécifique en prison, mais ça a été décidé par qui? Mais par les policiers, par la police, en fait. Nos fichages à tous, enfin, à tous les... Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, citoyen, mais tous ceux qui sont mobilisés, dans la sphère publique et tout, on donne lieu à des étiquetages policiers. Donc là, en prison, c'était explicite, mais c'est policier, c'est pas contestable. Et donc, on a des fonctionnaires du ministère de la Justice qui font un boulot, qui embrayent et tout. Mais qui c'est qui nous a fait rentrer dans le champ de cette surveillance et de ce contrôle et de ce processus de lavage de cerveau? Ben, c'est les policiers, quoi. C'est assez flippant.
En fait, ce que tu disais, pour eux, c'est la violence, c'est-à-dire qu'ils veulent lutter...
On ne sait pas, parce qu'au niveau de la définition, c'est pareil. Non, c'est comme la radicalisation.
Je pense à quelque chose. Je dis, si jamais ils veulent lutter contre la violence, il faut qu'ils déradicalisent tous les mecs violents qui tuent leur bonne femme et qui leur tapent dessus, quoi.
Sauf que leur pseudo-notion de radicalisation, c'est une notion politique, en fait. Et encore une fois, c'est...
Et même leur notion de violence. Quand on nous a dit de débrancher un tuyau à Sainte-Soline ou je sais pas quoi, c'est de la violence. Enfin, normalement, la violence, c'est contre les gens. Et en fait, eux, ils débordent complètement et contrôlent bien aussi, quoi.
Bah, de toute façon, pour, voilà, après, on a tous notre lexique. Moi, je me suis forgé un lexique qui est simple, brut, de décoffrage et tout. Moi, j'ai été en prison, j'ai croisé plein de gens qui ont fait plein de choses différentes. Ceux qui étaient en prison pour, par exemple, séquestration, j'étais mort de rire, quoi, parce qu'on était séquestrés. Moi, je considère que pendant 2 ans et demi, j'ai été séquestré. Et, point. Parce que, de toute façon, pour comprendre, il faut déjà se sortir, se désengluer de, bah, de quoi de, bah, du langage officiel, et là c'est le langage de la police et de l'institution judiciaire, quoi. Mmh. Moi, donc, ok, on me dit que j'étais en détention, prévenu, je sais pas quoi. Moi, je suis quelqu'un de basique et je considère que j'ai été séquestré, quoi. Mmh. Et que ceux qui étaient autour de moi, bah, ils étaient séquestrés. Bah, voilà. Et le niveau de violence, bah, il est même un peu supérieur de toute la violence dont nous, on a pu être les auteurs, parce que c'est assez extraordinaire. En fait, il y a des violences qui sont, encore une fois, considérées comme légitimes. On nous a lavé le cerveau sur ça. Et il y a des violences qui sont illégitimes, qui vous valent d'avoir des soucis et tout. Voilà, il y a un tri qui se fait.
Ce sera un thème à aborder.
Ah oui, c'est même un très grand thème.
Policière. Je crois que là, pour la dératie... Ça y est.
Ah, dératisation.
Déradicalisation. Ah, je sais pas qui c'est qui a inventé ce mot, c'est pas pour la radio.
Ben, flic, c'est un flic. Hein. C'est
ouais,
simple,
mais il fait pas de la radio, hein, ça se voit. Ouais. Donc tu voulais rajouter...
Bah, non,
oui.
Mais moi je me demandais, parce que là t'as beaucoup parlé des convocations, notamment avec les sociologues, les psy et tout, mais est-ce que ça comportait d'autres aspects, ce programme de déradicalisation, entre guillemets?
Oui, parce que non, ce qui est intéressant, c'était le contenu des discussions. Par exemple, je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça m'a beaucoup interpellé, ouais. C'était, par exemple, tout à l'heure, j'avais commencé à en parler, donc, parce que j'étais là, dans réunions, convocations, donc il devait aborder la question des gilets jaunes. Et quand il a eu affaire à moi, ben, il a complètement éludé le truc, il n'en a plus parlé, parce que il voyait bien que bah il y avait du répondant et que j'allais le démolir, quoi. Et quand il a commencé à parler concernant le reprogrammation de ceux qui étaient présumés être radicaux musulmans, bah il a fait un long historique, parce que, et qui a à voir avec en fait les préoccupations de l'État français aussi de la guerre civile en Algérie. Parce qu'il y a eu des prolongements en France. Et donc, par exemple, en Algérie, et donc il a essayé de les reprogrammer, il leur a dit qu'en Algérie, ben, c'était rien passé. Donc tout le monde sait, bonne foi, même de loin, qu'en Algérie, il y a eu une guerre civile. Ben, pour ce sociologue, non. Et donc, il a essayé de leur bourrer le mou et de leur dire qu'il n'y avait pas eu de guerre civile.
S'ils font comme ça, c'est raté.
La seule personne qui est intervenue dans cette réunion, ben, c'est moi. Parce qu'il se trouve que bah, j'ai des petites origines algériennes, et la période de la guerre civile, bah, tous les gens qui ont des connexions avec l'Algérie, et bah, les Français aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, tous les Français ont une connexion avec l'Algérie, évidemment, ça a suscité l'intérêt dans les années 90 de tout le monde.
La colonisation, tout le monde connaît. Hein.
Mais qu'il y a eu une guerre civile en Algérie, oui. Et lui, en fait, il a
c'est pas une guerre civile, c'est pas les Algériens entre eux. Hein.
C'était la notion.
C'est l'armée, c'est les colons contre.
Oui, non, je te parle des années 90. Non, des années 90.
Ah,
oui, bien sûr, là.
C'est là
où c'était intéressant. Parce que ils étaient jeunes.
Là.
Oui, ils étaient jeunes, mais déjà, dans le discours qu'il avait, il remontait très en amont et pour complètement réécrire en fait l'histoire dans laquelle ils sont censés s'inscrire.
Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec ce qui se vit en France?
Ben, ils étaient censés être radicaux et en connexion avec les vagues précédentes d'attentats, je pense. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, je parle vraiment en non-spécialiste. Hein. C'est ce que je dis, moi, c'est surtout derrière les sujets, hein, mais c'est du brut des décoffrages. Et je fais état de mes cogitages du moment en temps réel. Hein. Beaucoup de choses m'ont interpellé, ouais. Et après, j'ai pas cultivé ça.
Ça a l'air fou, hein, quand même, leur truc. Hein.
Je trouve ça assez... Non, je trouve qu'ils sont vraiment barrés, quoi.
Voilà. Après, c'est des techniques assez classiques, je veux dire, de réécrire l'histoire. Enfin, je veux dire, la colonisation fait ça, plein de trucs de l'histoire sont réécrits toujours d'un même point de vue des dominants. Enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est une technique singulière de réécrire l'histoire et d'essayer de faire croire que c'est toi qui te trompes, quoi. Enfin,
Et c'était vraiment, c'était grossier et. Enfin, je vraiment. Et ouais, c'était très décevant, ouais, même. Mais de toute façon, je sais très bien qu'ils sont impliqués dans les milieux
décevant
académiques.
Décevant dans le sens que tu pensais qu'ils allaient peut-être déradicaliser
non.
ces jeunes.
Non, c'est déjà un peu. Naïvement, je pense que j'avais un petit reste, et toujours, de un peu de respect pour les milieux académiques, tu sais, les universitaires, les trucs et tout. Et de les voir aussi crânement. Participer aux politiques dégueulasses enfin de l'État.
Déjà, il travaille.
Non, je reconnais, ouais.
Il travaille pour l'administration pénitentiaire et
oui,
c'est un choix
déjà,
quand même. C'est
déjà,
un choix.
Oui. Oui,
tout,
déjà.
Tout se font pas. Quoi. Ouais. On va s'arrêter.
Et puis, je veux dire, l'éducation nationale ou la fac ou quoi sont pas non plus réputés par leur esprit révolutionnaire. Hein,
oui, c'est sûr.
Il paraît, ouais. Alors... Je suis entièrement d'accord. Ouais.
Donc, on se retrouvera à une autre émission,
bien sûr, ouais.
Nasser.
Ouais. Malheureusement, ouais. Il y a des. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a c'est assez dense au niveau comme expérience.
Oui, oui, il y a beaucoup de choses à dire, ouais. D'accord. Ben, merci d'avoir joué le jeu de ce question-réponse sur ce sujet.
Non,
quand
c'est
même,
moi qui remercie, qu'on ait ouvert le micro. Ouais.
Oui. On fait une petite pause musicale ?
Allez.
D'accord.
Une petite musique dans le thème.
Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir.
Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara ma tombe, emmenez-moi là-bas. La liberté, la liberté.
Et on va maintenant vous passer une émission donc, des camarades d'Alarme Phone, donc leur émission qui s'appelle Chronique Amère, et que vous pouvez retrouver notamment sur le média en ligne Spectre. Et donc Chronique Amère, c'est l'émission que je disais des camarades d'Alarme Phone, qui sont donc un collectif qui tient une ligne téléphonique d'urgence pour les personnes qui traversent la Méditerranée et d'autres frontières maritimes et qui se retrouvent en détresse. Et voilà, qui essaye de secourir et aussi de rechercher les disparus, des personnes qui sont mises en danger par les politiques migratoires européennes. Et donc, dans cette émission de Chronique Amère, ils reviennent plus spécifiquement sur l'enfermement des personnes migrantes sur les routes migratoires, et plus particulièrement non pas tant dans les centres de rétention et différents types de centres de rétention que de prisons pour sans-papiers qu'il y a un peu partout en Europe et aux portes de l'Europe, mais vraiment dans des véritables prisons, parce que bon, on a déjà régulièrement parlé à cette antenne et dans notre journal, mais il y a les personnes sans-papiers sont également criminalisées et donc envoyées en prison, là, que ce soit pour des accusés de fait d'être des passeurs alors qu'ils ont juste piloté le bateau avec lequel ils ont traversé la mer, ou qu'ils ont guidé, enfin été devant le groupe qui franchissait une frontière, mais aussi souvent pour des actes de résistance en fait aux politiques migratoires répressives de l'Union européenne ou des pays comme la France et l'Italie. On peut se retrouver en prison pour avoir refusé une expulsion et donc après faire des allers-retours entre la prison et le centre de rétention administrative et être parfois bloqué comme ça dans ces boucles d'enfermement. Et donc voilà, cet épisode se concentre plus particulièrement sur l'enfermement des personnes migrantes en prison, donc en Europe. Et pour nous, c'est particulièrement important d'en parler en ce moment parce qu'il y a le pacte migratoire européen donc, qui a été voté en 2024. On en avait parlé notamment dans le journal, mais qui a été du coup adopté, enfin qui est rentré en vigueur là en juin dernier, donc en juin 2026, et qui va encore durcir le fonctionnement et de l'Union européenne et de la difficulté pour les personnes pour franchir ses frontières. C'est-à-dire que maintenant, on peut rester enfermé jusqu'à 6 mois dans des zones d'attente aux frontières de l'Union européenne dans l'attente du traitement de son dossier. Ça veut dire, en France, par exemple, on parle de la ZAPI, donc la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où du coup, légalement, on pourrait être resté 6 mois dans cette zone d'attente qui est dans l'aéroport, et tant qu'on est dans cette zone d'attente, on n'est toujours pas rentré sur le territoire français, alors que même on est sur le sol français, mais c'est une espèce de fiction législative qui fait qu'on peut être réexpulsé juste après, en évitant certaines lois qui empêcheraient d'être expulsé une fois qu'on a mis un pied sur le territoire national. Dans le même temps, c'est aussi des textes qui prévoient d'ouvrir de nouveaux centres dans ce qu'ils appellent des pays tiers, donc d'autres pays, des pays par lesquels les personnes auraient transité en venant en Europe et vers lesquels on pourrait être les expulser, ce qui éviterait de les expulser vers leur pays d'origine. Mais voilà, maintenant on peut expulser les personnes vers des pays avec lesquels elles n'ont aucun lien, pour peu que ce pays soit considéré comme sûr par les autorités. Voilà, au passage, on sait par exemple que récemment, il y a un responsable européen qui a rencontré des responsables des talibans en Afghanistan pour voir si ça serait pas possible de réexpulser des ressortissants afghans en Afghanistan. Donc on voit bien que la notion de pays sûr est assez large et floue pour les dirigeants européens. Bref, étant donné que les frontières européennes continuent de se durcir, qu'on continue à construire des prisons aux frontières en dehors de l'Europe et en Europe pour enfermer toujours plus les personnes étrangères, on pense que c'est important d'en parler, donc de donner la voix aux camarades d'Alarme Phone qui luttent contre ces frontières. Et donc on vous laisse avec elle.
Alarme Phone, hello.
Hola.
Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarme Phone,
c'est Alarme Phone.
How are you, my friend?
Estás,
how many are you?
Can you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you?
Benny, do you
can you give me your GPS position?
Chronique à mer.
Chronique à
mer. À mer.
Chronique à mer.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarme Phone.
Freedom, I don't meet them. Where's your freedom?
Combien de personnes êtes-vous sur le bateau?
Can you hear me?
What kind of boat are you on?
How many are you on the boat?
Keep calm, keep as calm as you can.
Okay, I call you back.
ما هو لون القارب؟
Maybe try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2024, 12 500 personnes sont mortes ou disparues en traversant.
1041 personnes par mois.
240 personnes par semaine.
34 personnes par jour.
Plusieurs milliers de personnes sont emprisonnées.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour, j'espère que tu vas bien. De la part de ton ami Ahmed, depuis les barreaux, je ne te cache pas que je suis épuisée par la prison et le geôlier.
La rétention, ils disent que c'est pas la prison. Les cellules sont ouvertes, tu as le droit à un bigot, il y a une cour pour sortir. Mais les murs et les barbelés sont bien là, les flics aussi. En fait, c'est pire que la prison.
Ils m'ont emmenée au tribunal. J'ai rencontré la juge d'instruction qui m'a dit qu'elle allait me placer en détention provisoire pendant 4 mois. Mais je n'ai toujours pas été libérée à ce jour. Je ne sais pas pourquoi. À présent, cela fait 24 mois et je n'ai toujours pas eu de jugement.
Ceux qui sont enfermés pour la première fois, ils deviennent vite fous. C'est le bordel tout le temps.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 39e épisode de Chronique Amère. Une chronique mensuelle où l'on décortique les politiques des frontières européennes et toujours depuis Alarmfon. Alarmfon est un réseau transnational d'activistes qui lutte contre les frontières et pour la libre circulation de toutes et tous. Pour nous, considérer que toute personne doit avoir le droit de circuler comme elle a envie implique qu'aucune personne ne devrait être contrainte dans un espace quel qu'il soit, qu'aucune personne ne devrait se trouver privée de liberté dans des lieux d'enfermement, y compris en prison. La criminalisation des personnes en exil a lieu tout au long des parcours de migration. Impossible de compter toutes les personnes qui se retrouvent enfermées dans des pays de passage au sud de la Méditerranée, mais également une fois arrivées en Europe. Nous vous avions déjà raconté, dans un épisode précédent, l'histoire d'Ibrahim Abba, un camarade sénégalais en prison en Angleterre. Cette fois, nous avons eu envie de nous emparer plus largement de la question de l'enfermement des personnes en mouvement tout au long de la route. En Europe, quand on parle d'enfermement des étrangers, on pense avant tout aux centres de rétention administrative. CRA en France, CPR en Italie, centres fermés en Belgique, centres de rétention ou d'expulsion en Allemagne. En revanche, on parle beaucoup moins de toutes les personnes en exil qui se retrouvent dans les prisons sous divers chefs d'inculpation, ou de tous ceux qui font des allers-retours incessants entre CRA et prison. Alors dans cet épisode, on va surtout s'intéresser et donner la parole à ceux qui passent des années en prison, accusés notamment d'avoir conduit les bateaux sur lesquels ils ont traversé. On entendra aussi parler des résistances et des solidarités qui se tissent, dedans comme dehors. Attention, parce que la situation aux frontières et dans les prisons est dure et violente, les témoignages qui suivent peuvent être difficiles à entendre.
Pour cet épisode, on est allé rencontrer les membres du collectif Ragazzi by Fal en Italie.
Je m'appelle Lamine, moi je suis sénégalais. Ce n'est pas moi que j'ai choisi pour venir ici en Europe parce que le temps que je suis en Libye, je travaille maçonnerie avec une grande entreprise. Donc je travaille donc aux règles comme tout le monde. Mais il y a des moments là, donc c'est difficile pour nous parce qu'on ne peut pas rester là-bas pour toujours parce qu'il y a des guerres. On te maltraite, donc il n'y a pas de solution donc, pour retourner. Il y a une porte seulement ouverte, donc c'est la porte que moi que j'ai payée pour venir ici en Europe. Durant les voyages de Libye, il n'y a pas de capitaine. Donc moi, j'ai dit, le monsieur là, je veux conduire les bateaux parce que je sais, parce que quand je suis au Sénégal, donc je travaille les pêches en même temps. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, donc toi, tu connais pour conduire les bateaux. Donc, il m'a expliqué tout. Il m'a isolé avec les gens. Mais avec grande surprise, quand j'ai fait 3 jours de voyage, donc quand je suis descendu ici en Sicile, en Palermo, on m'a isolé parce qu'il y a quelqu'un, il m'a blanchi, il a dit, c'est moi que je conduis les bateaux. Moi, je ne comprends pas l'italien, je ne comprends pas les situations. Moi, tu ne comprends pas les lois d'Europe. Les gens, ils m'ont isolé, donc après, il m'a amené en prison. Après, tu n'as pas le droit pour téléphoner à ta famille. J'ai fait 2 ans, 8 mois, 27 jours en prison. Ma famille, ils pensent que je suis mort, ils m'ont oublié. Moi, je ne comprends pas. Parce que tu n'as pas de droit pour appeler. Tu n'as pas de droit pour travailler. Tu n'as pas de droit à beaucoup de choses. Parce que les gens, quand ils disent quelque chose, ils disent non, toi, tu es un criminel parce que tu as amené les clandestins ici. Quand je suis allé en tribunal, donc après, ils m'ont laissé. Mais non, il dit non, tu es libéré, donc voilà. Et nous, il n'y a pas de preuves, ta. Comme ça, 2 ans, 8 mois, 27 jours, rien. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, tu es accusé sans preuve, sans rien, tu mets en prison 3 ans, après, sans rien, après, tu dis, aujourd'hui, tu es libéré. Où que je vais aller? Quand je suis sorti, où que moi je vais aller? Je ne connais pas personne, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de famille, rien même. J'ai perdu tout mon contact. J'ai dormi dans le lit 2 jours. Le 3e jour, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a amené en Via Gioconda.
On écoute, cher. Nous raconter la création du collectif.
Ragazzi Baifal est un collectif né en 2017 avec des groupes de jeunes migrants, ceux-là même qui vivent ici à Palerme. Ainsi, en 2017, nous étions dans une caritas appelée Via Gioconda, où vivent des migrants, y compris des ressortissants de pays tiers sans papier, venus de partout, pas seulement du Sénégal et de la Gambie, mais de toute l'Afrique et même de quelques pays d'Europe. C'est là que notre groupe a vu le jour. Notre problème, c'est que nous sortions tous de prison. Quand nous étions à Via Gioconda, nous n'avions aucun soutien, car nous étions abandonnés par le système. C'est là que nous avons compris que la solidarité est en nous, que nous sommes de vrais frères, que nous ne luttons pas simplement pour le plaisir de lutter. Ce que nous disons sur le baïfalisme, sur le fait de lutter ensemble, c'est en nous. Le baïfalisme est une confrérie née au Sénégal. Et comme nous sommes les baïfal au Sénégal, quand nous sommes venus ici, nous sommes devenus les baïfal de la même manière. Nous en sommes maintenant à un stade où nous menons de nombreuses activités, où il y a beaucoup de choses en cours, des projets, des actions de soutien.
Però abbiamo i programmi, abbiamo i progetti. Avevamo un progetto come lavoriamo come un po' di ragazzi baïfal.
Nous avions un projet avec quelques jeunes de Baïfal et de Maldouza pour soutenir les jeunes qui sont en prison. Nous avons aussi des camarades comme Majay qui sera en prison pour rendre visite aux jeunes incarcérés. Nous avons également un service où nous écrivons des lettres aux jeunes en prison. Nous leur demandons ce dont ils ont besoin et nous leur disons que nous sommes là pour eux. Nous avons également organisé plusieurs soirées pour mettre en avant la culture, les arts et l'importance de vivre ensemble. Ce que nous faisons, c'est un combat qui dure toute la vie.
Sono arrivato in Italia nel 2016, mese 7, giorno 7.
Hassan.
Sono arrivato a Palermo.
Membre des Ragazzi Baïfal.
Je suis arrivé en Italie en 2016, le 7 du mois de juillet à Palerme. On m'a arrêté pour Scafista, parce que j'ai piloté le bateau pour arriver ici en Italie. J'ai moi-même passé 3 ans et 3 mois en prison, ce qui n'est pas rien. Mais ce n'est pas non plus une éternité. Ces 3 ans et 3 mois m'ont permis d'acquérir une certaine expérience et de comprendre certaines choses. Mais ils m'ont aussi fait perdre un peu de temps à attendre. Quand on vit en prison, dans un endroit fermé, on voit les mêmes choses tous les jours. On vit les mêmes choses tous les jours. Ce n'est pas comme si certaines choses changeaient aujourd'hui et d'autres demain. Tu obéis aux ordres qu'on te donne. Tu ne peux pas aller au-delà des ordres qu'on te donne. Tu ne peux pas faire d'autres choses qu'ils ne veulent pas. Ou si tu fais d'autres choses, ils te font un rapport, ils te mettent en isolement pendant 40 jours ou tu restes là tout seul sans parler à personne. Pour moi, venir ici en Europe et rentrer en prison, c'est une chose très pénible. Mais sur certains points de vue, c'est aussi une chose qui te fait comprendre ton point de départ dans la vie. Mais pour moi aussi, qui ai vécu en prison, passer 2 ans sans parler à mes parents, sans parler à ma famille, c'est une expérience terrible qu'on ne peut pas comprendre. À un moment donné, mes parents pensaient que je n'existais plus sur Terre. Mais grâce à Dieu, qui m'a donné la force de vivre cette histoire passée, qui était une épreuve qui devait arriver dans la vie, que j'ai surmontée et laissée derrière moi. Mais il faut toujours le courage de continuer, même de se battre pour soi-même. On ne peut pas dire qu'on est sorti et qu'on est libre, non. Parce qu'on doit se battre pour les papiers, on doit se battre pour d'autres choses. On n'est pas libre si on ne met pas en place ce mouvement, cette vie et aussi ce combat. C'est pour ça que ce combat du baïfalisme s'est étendu. Parce qu'on a besoin de soutien, d'aider nos frères qui en ont besoin, à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous ne pouvons pas lutter seuls, non. Partageons ça avec le monde entier. Ne tournons pas le dos et regardons cela en face.
Mohamed, membre des Ragazzi Baïfal.
Je pense que dès le départ, la lutte Baïfal a été une lutte anti-système, c'est-à-dire contre la discrimination systémique. Et donc, aussi, contre le système carcéral, puisque Cheikh Amadou Bamba, lui-même, a été emprisonné par les colonisateurs. Et c'est le même système qui, encore aujourd'hui, continue à mettre tant de personnes en prison seulement parce qu'elles ont décidé de voyager. Parce que nous sommes considérés comme illégaux ici et qu'en tant que migrants, nous sommes au cœur de cette lutte. Les Ragazzi Baïfal, ce sont des jeunes qui ont été incarcérés et qui se sont donc retrouvés contraints de faire ces choix-là, de lutter, de sensibiliser les gens, de leur dire que nous ne sommes pas des criminels. Les criminels, ce sont ceux que l'Europe, l'Union européenne, l'Italie, la France payent en Libye pour arrêter les gens. Et donc, ceux qui transportent les personnes, celles qui sont parfois contraintes de conduire les bateaux, ce ne sont pas eux les criminels. C'est le même système qui paye des gens pour arrêter les migrants, alors que l'immigration devrait être un droit pour tous. C'est un droit qui vaut pour vous, Européens, pourquoi pas pour nous ? Et donc, ça aussi, c'est une lutte. Quand on parle de lutte pour les droits, ça aussi, c'est un droit fondamental. Pourquoi les Européens devraient-ils décider si je peux voyager ou si je dois mourir en Gambie ? Pourtant, tout le monde sait que les véritables trafiquants sont en Libye. Ce sont eux qui reçoivent de l'argent de l'Union européenne pour bloquer les migrants. Certaines personnes accusées de trafic d'êtres humains ont même été accueillies en Italie pour négocier avec des responsables politiques comme Matteo Salvini. Et donc, des accords sont conclus avec eux, alors que ce sont eux qui tirent profit du système. Pendant ce temps-là, des migrants qui sont obligés de partir de chez eux pilotent les embarcations et sont arrêtés. C'est profondément injuste. Et c'est aussi pour cela que la lutte contre les prisons continue. Car, comme ils le disaient, les effets de la prison ne s'arrêtent pas à l'enfermement. Ils continuent après la sortie, faute de soutien. Malgré cela, ces jeunes ont eu le courage de se relever et de dire « Non, ici, ce n'est pas la fin de nos vies ». Nous continuons donc à lutter pour nos vies et pour d'autres jeunes dans la même situation.
À présent, cela fait 24 mois et je n'ai toujours pas eu de jugement, car je suis en prison depuis le 12 août 2023.
Les flics, bien sûr qu'ils sont racistes. Ils profitent qu'ici, la plupart des gens parlent pas ou mal français. Ils leur parlent comme des chiens, se foutent d'eux. Quand ils voient que tu parles bien français, ils ne réagissent pas pareil. En fait, ils sont toujours sur ton dos. Ils te mettent la pression, car si tu réponds, ils te rentrent dedans direct. Alors, ils font tout pour que tu leur répondes.
J'essaie 1000 fois par jour de me préserver, de préserver mon esprit et mon moral, et de ne pas dévier de l'amertume des mœurs.
Jamais je ne pensais qu'il était possible de maltraiter ainsi les gens. Plus les jours passent, plus j'ai du mal à dormir. Le CRA, c'est d'une violence incroyable, c'est de la torture mentale. Leur but, c'est de te faire péter les plombs. Ils te font mal psychologiquement.
On a également rencontré Mustapha, membre du collectif Mataris, en Grèce.
Last year, 2025, we start to make our group.
C'est l'année dernière, en 2025, que nous avons créé notre groupe appelé Mataris. Ce groupe a pour but d'aider la communauté soudanaise ici et les réfugiés soudanais qui sont venus en Grèce en quête de sécurité, mais aussi d'aider les Soudanais au Soudan en collectant des fonds pour les envoyer aux services d'urgence qui viennent en aide aux Soudanais pendant la guerre, et enfin de parler de la révolution qui a eu lieu au Soudan en 2018. Un jour, nous avons entendu parler d'une cinquantaine de garçons en prison, dans la prison pour mineurs appelée Avlona à Athènes. Nous avons donc cherché un moyen de les contacter et avons commencé à leur écrire des lettres pour leur dire qu'il existait un groupe de solidarité à l'extérieur capable de les aider. Puis nous avons reçu des réponses. Nous avons réalisé qu'ils étaient accusés d'être des passeurs alors qu'ils venaient de Libye pour piloter le bateau ou s'occuper du GPS afin d'aider les gens pendant les traversées. Pour cela, ils ont été condamnés à des peines de 10, 15 ou 25 ans. Les dernières condamnations sont de 10 ans et le maximum est de 25 ans. Mais le juge leur inflige des peines irréalistes, comme 1300 ans, parfois 250 ans. Quant à la situation à l'intérieur de la prison, elle est très difficile. Tout d'abord, lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, ils le font descendre du bateau. Ils placent au moins 1 à 3 personnes en détention provisoire pendant 6 mois, après quoi ils leur communiquent la date du procès. Ensuite, il faut faire appel à un avocat. Si vous en engagez un privé, vous devrez payer 1 500. Si vous n'en avez pas, vous devrez vous contenter d'un avocat commis d'office. Et celui-ci vous proposera en fait simplement de conclure un accord de plaidoyer, car c'est pendant le procès, au tribunal, que vous découvrez votre avocat commis d'office. Donc l'avocat commis d'office ne vous rencontre que 2 fois pendant le procès, soit 5 à 10 minutes maximum pour discuter avec vous et ensuite vous défendre. Cela ne fonctionne pas car l'avocat ne peut pas en 5 minutes lire le dossier et ensuite vous défendre. Il vous propose donc de conclure un accord avec le tribunal, de dire « Je suis coupable, je suis un passeur, j'ai pris de l'argent à des gens pour les faire venir ». Mais ce n'est pas vrai. Pourtant, l'avocat essaie de négocier ça pour obtenir une peine moins lourde, comme 10 ans au lieu de 25. Quant à savoir s'ils ont la possibilité de se défendre et d'exercer leurs droits, en réalité, non. Parce que le procès prend très peu de temps. Parfois, ça ne dure que 6 minutes. Et nous avons constaté une approche systématique de la part du juge, des avocats, de l'État et de la police, ce qui donne l'impression qu'ils ne font qu'un. Par exemple, à Chania, un juge a, en un an, plus de 65 affaires et personne n'a été acquitté. Et pour ce qui est de leurs droits, ils ne les connaissent pas vraiment. Alors nous avons fait beaucoup d'efforts pour les informer, par exemple sur ce que signifie être en négociation de peine. Les avocats de l'État ne leur ont pas expliqué que si vous êtes en négociation de peine, cela signifie que vous êtes considéré comme un passeur et que vous ne pouvez pas demander l'asile. De plus,
Même si vous êtes en négociation de peine, vous avez en fait le droit de faire appel et vous avez le droit de demander l'asile depuis la prison. Mais personne ne leur dit cela. Il n'y a aucun moyen de prendre contact avec qui que ce soit, par exemple pour recevoir une visite, car seuls les proches ont le droit de vous rendre visite et la police vous confisque vos téléphones, ce qui crée un isolement entre les prisonniers et leurs familles. On ne leur a pas donné de vêtements, ni de chaussures, ni même de sous-vêtements, donc ils ne portent que leurs vieux habits. Quant à la nourriture, ils ne leur donnent qu'un seul repas par jour et il faut s'en contenter pour toute la journée. Parfois, ils leur donnent du porc, mais comme les musulmans n'en mangent pas, ils ne peuvent pas manger pendant 2 jours. Dans le cadre de notre campagne, nous avons recensé plus de 85 familles qui n'ont pas eu de nouvelles de leur fils. Dans l'un de ces cas, cela fait environ 2 ans et demi qu'elles sont sans nouvelles. Il y a tout juste 2 semaines, nous avons réussi à établir le contact entre eux. Et nous savons désormais que le jeune homme est en vie et se trouve dans l'une des prisons. Mais il n'a toujours pas de contact avec sa famille. Le vrai problème auquel nous sommes confrontés, c'est comment entrer en contact avec ces personnes. La campagne a commencé en avril dernier, mais nous n'avons pris contact qu'avec 328 Soudanais en prison. Nous avons donc beaucoup de mal à atteindre ce nombre, à recevoir leurs appels et à briser cet isolement. Et aussi à trouver une ONG pour les aider avec l'avocat, comme une aide juridique, ainsi que leur envoyer des vêtements afin de les aider financièrement à payer l'avocat.
Nous entretenons de bonnes relations avec certains groupes ici, notamment en Crète, où se déroulent la plupart des procès à la Canée, et à Héraclion, ainsi qu'à Volos, à Thessalonique et à Athènes. Ils ont donc beaucoup contribué à la campagne, par exemple en envoyant de l'argent aux personnes concernées, des cartes téléphoniques pour qu'elles puissent appeler, et en organisant des manifestations pour mobiliser un large public. Nous organisons également une véritable collecte de fonds en ligne pour assurer la traduction au sein du tribunal, car la plupart des avocats ne disposent pas d'un interprète de l'arabe vers l'anglais ou de l'anglais vers le grec. La campagne 50 out of many a commencé avec 50 garçons, mais ce nombre va augmenter, et c'est ce qui se passe actuellement. En avril, cela fera 1 an que nous travaillons sur ce projet. Jusqu'à présent, nous avons obtenu la libération de 12 personnes, ce qui est une bonne chose, et les gens sont désormais sensibilisés à ces droits. Nous leur avons permis de se refaire une vie. Nous avons également organisé de nombreux événements ici pour que les gens s'impliquent, notamment des assemblées ouvertes afin qu'ils puissent participer à ce mouvement. Pour les personnes de l'extérieur, elles savent ce qu'elles peuvent faire et comment aider. Elles peuvent parler de ce qui se passe en Grèce. Elles peuvent s'impliquer également lors des procès, collecter des fonds, sensibiliser le public.
Mido do soka, hibe jalato. Mido ga soka, hibe jalato. Kala kobe hali, mimi na nata. Bae ribe fena, mimi handata. Hida jodi hande, hida no talang. Naruto min moto, fia walo yang. Vitori mambudi, koya okoyang. Hida hida in a lando, anga walaila. And the kata jodi, hida sonjami. Me do hande jodi, me do fala booty. Me do fala auto, me do fala galle. Nene ano happy, jaja eno happy. Kau eno happy, kono hino tampi. Ota timpulo, himo jodi ga. Onati Italy, daro o tampi. Yatuno Libya, nati Italy. O imi Italy, onati France. Ariga o France, onati England. Medo kambe sokimo, hibe inado. Mido wari na yo, daro tobe.
Qu'on soit voyageuse, passeur, qu'on ait ou pas aidé à organiser des voyages, pour nous, ce n'est pas la question. Parce qu'à Chronique Amère, on pense que l'enfermement n'est une solution pour personne. Que pierre par pierre et mur par mur, on voudrait détruire toutes les prisons, les lieux de détention, de rétention et leur justice avec.
Ibrahim, enfermé en Angleterre et accusé d'avoir conduit un bateau.
From Calais to England. And in the same time,
ça s'est passé alors que j'essayais de traverser de Calais vers l'Angleterre. À un moment, il y a eu un problème avec le bateau. Après avoir appelé les secours, à partir du moment où le bateau ne marchait plus, nous avons passé environ 3 heures à attendre, sans voir de bateau de sauvetage. Au bout de 3 heures, un bateau est arrivé et nous a secourus. Et tout à coup, je me suis assis. Parce que j'avais bu un peu d'eau et que je me sentais un peu mal. Je me suis assis, la police est arrivée et ils m'ont demandé de leur tendre la main, sans rien dire de plus. J'ai tendu mon bras, ils m'ont menotté et m'ont emmené au poste. Puis, ils m'ont dit que j'étais le conducteur du bateau. Je leur ai dit que je n'étais pas le conducteur, mais ils m'ont dit que 20 personnes m'accusaient de ça, tu vois, d'avoir fait passer des gens. J'ai été confronté au procureur et ils m'ont envoyé en prison. Ils m'ont dit que j'y resterai 4 mois, juste le temps de l'enquête. Au bout de 2 ans et 3 mois, j'ai comparu devant le juge. Au tribunal, ils m'ont accusé d'avoir piloté le bateau. La première accusation, c'est d'avoir piloté le bateau. La deuxième, c'est qu'ils ont dit que je faisais le passeur. Et la troisième, c'est une affaire de meurtre. Une affaire de meurtre, comme ça. Parce qu'ils m'ont dit que c'était pendant ce voyage, quand le bateau a coulé, que 6 personnes sont mortes. Je ne les avais jamais vues de mes propres yeux, mais j'ai entendu la police dire qu'il y avait 6 morts.
Délibéré du procès d'Ibrahim. Mardi 18 novembre 2025, tribunal de Paris.
Donc l'audience est reprise, veuillez vous asseoir.
Monsieur Ibrahim Aboubakar, au-delà des différents moyens et de votre situation particulière, vous étiez avant tout un candidat au départ et auriez pu perdre la vie cette nuit-là. Mais vous avez quand même eu un rôle différent des autres passagers. Les témoins vous assignent un rôle en tant que conducteur, mais pas tous. Certains disent que vous avez aidé Aiz, d'autres qu'il n'y avait qu'un seul conducteur. Il est possible qu'un amalgame ait été fait entre vous, les 2 seules personnes africaines sur le bateau. Votre version des faits a été confirmée par l'enquête. Un deuxième conducteur n'était pas nécessaire et vous n'aviez pas de compétences pour le faire. Donc, vous n'avez pas bénéficié d'un passage gratuit. Donc, vous étiez passager et n'avez pas participé d'une façon différente. En conséquence, vous êtes relaxé des fins et des poursuites. Le tribunal forme le vœu que vous trouviez une vie meilleure en France après avoir été contraint de quitter votre famille. Le reste des prévenus sont tous jugés pour homicide involontaire. Il n'y avait pas de gilet de sauvetage adéquat. Vous avez créé les conditions conduisant au décès des personnes, des faits graves qui vont au-delà de l'aide au séjour irrégulier. D. Relaxé des faits de bande organisée, mais coupable pour aide au séjour irrégulier. 5 ans d'emprisonnement et maintien en détention. S. Relaxé pour homicide involontaire et mise en danger, mais coupable d'aide au séjour irrégulier. 3 ans d'emprisonnement et interdiction du territoire français. N. Coupable de tous les chefs d'accusation. 9 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et interdiction du territoire français. T. Coupable de tous les chefs d'accusation. 12 ans avec maintien en détention. I. Coupable de tous les chefs d'accusation, 15 ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende et interdiction du territoire français.
After 2 weeks, I get unison. When I get free, it was, you know, like, I was very happy because, you know, anything that it has advantage and disadvantage. And the condition in the prison was, you know, was very difficult because firstly, I did not have contact with family.
Au bout de 2 semaines, j'ai été innocenté. Quand j'étais libéré, j'étais très heureux, car vous savez, tout a ses avantages et ses inconvénients. Les conditions de vie derrière les murs de la prison étaient très difficiles, car d'abord, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je n'avais aucun contact avec mes amis, je ne parle pas français, et tout le monde en prison parle français. Je ne pouvais pas leur parler pour décrire ce que je ressentais. J'avais besoin de discuter avec quelqu'un pour oublier ma douleur. C'était très dur.
But after I find one guy was telling, gave me a little bit of advices, I became a little bit calm, but even...
Mais après, j'ai trouvé un gars qui m'a donné quelques conseils. J'étais un peu plus calme. Mais même là, c'était vraiment dur en prison. Au bout d'un certain temps, j'ai peu à peu compris la situation en prison. J'ai même reçu du soutien de personnes de l'extérieur, comme l'organisation Captain Support. Et après, mes collègues m'ont contacté par courrier. C'est vrai, j'étais en contact avec beaucoup d'amis et avec ma famille, et je suis devenu calme. Et j'ai même essayé de commencer à apprendre un peu de français pour faire des activités et oublier toute la douleur que j'ai. Mais en même temps, j'ai passé 2 ans et 3 mois là-bas. C'était une période très, très, très triste et très étrange. Et tu sais, je regrette beaucoup le temps que j'ai passé là-bas. Après, quand on m'a dit que j'étais innocent, j'ai été très surpris.
I hope that everybody, new immigration coming,
j'espère que tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver, quand ils vont en prison, j'espère qu'ils puissent être patients. J'espère, en même temps, qu'ils n'oublient pas qu'il y a toujours des êtres humains qui ont de l'humanité, qui seront à vos côtés, qui te disent « Je serai avec vous, à vos côtés, et je vous aiderai avec solidarité et amour. »
And I planned that to join like with Captain Support people, and this even another organization.
Maintenant que je suis libre, j'ai l'intention de rejoindre, par exemple, les gens qui soutiennent Captain Support. Il y a même une autre organisation avec des Soudanais qui s'appelle Kush. Je vais les rejoindre en tant que bénévole.
Now I'm going to fight against the criminalizing, because there's many people they put them in the prison illegally, and they.
Je vais lutter contre la criminalisation, parce qu'il y a trop de gens qu'on met en prison illégalement, juste au hasard, sans aucune justice. Et je suis contre ça, pour toujours.
Comme Ibrahim, de nombreuses personnes se retrouvent enfermées en France ou en Angleterre, en détention provisoire, avant même d'être jugées. Mais ces derniers mois, la stratégie de criminalisation dans cette zone de la Manche est en train de changer, puisque sous la pression de l'Angleterre, la France a changé de doctrine. Alors qu'auparavant, la répression se faisait sur les plages en empêchant les départs, la gendarmerie maritime a maintenant l'accord des préfets pour intervenir en mer et sur les cours d'eau menant à la Manche. Parce que pour éviter la répression sur les plages de départ, les bateaux ont de plus en plus tendance à partir de zones éloignées des endroits surveillés et à longer les côtes pour récupérer des personnes voulant traverser directement dans l'eau, aux abords des plages ou le long des cours d'eau menant à la mer. La gendarmerie maritime a commencé à appliquer cette méthode d'interception depuis le début de l'année. Elle a déjà intercepté plusieurs bateaux, arrêté et placé en garde à vue toutes les personnes présentes sur le bateau et désigné, plus ou moins arbitrairement, un capitaine qui se retrouve en détention provisoire, puis jugé en comparution immédiate pour aide à l'entrée et au séjour en bande organisée. Nous savons à ce jour qu'au moins 2 procès en comparution immédiate ont eu lieu depuis le début de l'année. Une personne ayant pu assister à l'un des procès a pu confirmer nos craintes quant aux comparutions immédiates. Absence d'enquête, pas le temps de contacter des avocats compétents, absence d'interprète, d'avocat lors des auditions, etc. Il s'agit d'un très bon moyen pour juger des personnes sans preuve et les condamner à des peines lourdes de prison et d'interdiction du territoire sans qu'elles puissent se défendre. Un nouvel enjeu important aujourd'hui pour lutter contre la répression est de faire passer le message auprès des personnes qui traversent, de refuser à tout prix les comparutions immédiates et de contacter Captain Support ou tout autre collectif de soutien sur place à Calais.
À mon arrivée en prison, je n'avais ni vêtements ni chaussures et c'est elle qui m'a aidée à cet égard. Je vous remercie et vous exprime ma gratitude encore une fois. Je vous suis vraiment reconnaissant.
Pourquoi l'État fait tout pour nous mettre dans la merde ? Liberté, égalité, fraternité, tu parles. Mais il faut rester fort, je vais pas me rabaisser. On a traversé le désert, la Méditerranée, on a perdu des frères et des sœurs dans ce voyage. J'ai pas envie de penser à tout ça. Et dire que quand t'es au pays, t'entends parler de la France, mais quand t'arrives, ce n'est pas cette France que tu trouves. Pourquoi il y a un tel racisme contre les migrants ? Pourquoi on nous empêche d'avoir nos papiers ? Pourquoi l'État fait tout pour nous mettre dans la merde ?
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons très bientôt pour un second épisode sur la question de l'enfermement et des prisons, cette fois tout au long des routes de l'exil. En attendant, nous avons comme à notre habitude envie de terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes enfermées, pour celles qui affrontent au quotidien l'isolement des CRA, des CPR, des CIE et autres centres fermés. Des pensées de solidarité pour toutes et celles et ceux qui, présumés capitaines ou accusés d'avoir participé à l'organisation de voyages, sont enfermés à leur arrivée en Europe. Des milliers de personnes sont actuellement en prison en Grèce, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes incarcérées actuellement au Sénégal, juste pour le fait d'être homosexuel. Solidarité avec toutes les prisonnières partout dans le monde. Pensées pour toutes les familles et les proches de détenus, pour toutes les personnes et les collectifs qui luttent contre les prisons et l'enfermement, et pour toutes celles et ceux qui s'organisent pour apporter du soutien à l'intérieur, pour reprendre les mots des camarades Baïfal, qui sont au cœur de la lutte contre le système carcéral en Italie. Nous ne pouvons pas lutter seuls. Partagez cela avec le monde entier. Ne tournons pas le dos et regardons cela en face. Crève la tôle. Merci à Lamine, Sheikh, Hassan et Mohamed. Merci aux camarades de Mataris et à Ibrahim pour leur précieux témoignage. Merci à Ahmed et aux autres enfermés en centre de rétention pour le partage de leurs lettres. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rendu cette chronique possible, et aussi à celles et ceux qui vont la diffuser. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JTFM, celui de Canal Sud, celui de Radio Galère et celui de Radio Duo. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarme Faune et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarme Faune. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Chronique amère, et d'ici là, main sur le cœur et point levé.
I'm blocking, then I'm bleeding. Go long, these bullets, he receive it. I can't see it. My wrist look like a snow cone, make her eat it. Once I see her, I give her that dope dick just like it eats her. Then I leave her. I can't get caught up, I can't be on cheaters. Look at them people, you know what it is. Go put that dope up for they breaches. Before they breaches, I'ma get out this bitch and I'm striking, I'm throwing my heater. Whole lot of money instead, it keep coming forever. I'm living my life like a Peter. Dope, boy. I'm straight out the knife, I came up selling hard. Hell, run. I'm straight from the knife, I went bought me a dime. I dropped out the poacher and bought me a gun. We bought in the jet, cause my dog got a one. But don't give a fuck when the stick will be gone. I moved up out that molly, I cover my gun. This shit got an elo, my aim on point. Shooting that Glock, give me pain in my joint. We shoot a 50 round drum, honey bun. I want 2,000, I want both of they tongues. I know how to handle they books, I'ma damage. These niggas can't run, we gon' kill everyone. You know where I'm from, give a fuck how you come. Got a stick in the car and it sound like a bomb. I came in the bit with a mid worth of cash. Like Bandicoot, we bout to crash. No remorse, I put five to your dad. Off the Porsche, bought a Porsche and I drag. Out the building, them young niggas slack. Put up there.
it, now you do the math. If you sick on my son, I won't hide. Bullets rain, we give him a bath. I said I need it. This Draco undefeated. Bitch, I'm black and then I'm bleeding. Go long, these bullets, he receive it. I can't see it. My wrist look like a snow cone, make her eat it. Once I see her, I give her that dope dick just like it's eating. Then I leave her. I can't get caught up, I can't be on cheaters. Nigga, them people, you know what it is. Go put that dope before they breaches. Before they breaches, I'ma get out this bitch and I'm striking, I'm throwing my heater. Whole lot of money and still it keep coming forever. I'm living my life like a beater.
From the band of the band, we making it happen. I like a bitch bougie, but keep me in ratchet.
That is fantastic. Cartier straight out the plastic. Diamonds in all of my glasses.
I'm fucking more bitches than magic.
Straight out the basket. They say them young niggas have it.
The money too old, it's growing mag, it's nasty.
Finger fuck it with the mag.
I'm thinking they forgot the way we pay. We been giving too many niggas these passes.
Too many. Fuck it, drop a bag and cash it. Fuck it. Who gonna press on the fastest?
Who?
Extend them barrel elastic. New attachment, shit get tactic.
Technical. They stole the flow.
Go.
Then they tryna run off with the fashion.
My neck got freezing. Just give us the reason. Make this smoke look easy. Couple of hundreds with the stones is bleeding. What's your issue? If you got a trigger, just squeeze it. Squeeze it. Don't block outside the street.
Ain't no peace treated. These stones around my Jesus, they ain't treated. They got me heated. Don't play with the game, they know that we be undefeated. I get to squeezing.
I get to squeeze.
When we talking beef, they say that they vegan. Jumping no reason.
Jumping no reason.
We coming on ice and talking to freezer.
I said I need it. This Draco undefeated. Get some black and then I'm bleeding. Go long. These bullets. Receive it, I can't see it. My wrist look like a snow cone, make her eat it. Once I see her, I give her that dope dick just like it's eating. Then I leave her, I can't get caught up, I can't be on cheaters. Nigga, them people, you know what it is. Go put that dope before they breaches. Before they breaches, I'ma get out this bitch and I'm striking, I'm throwing my heater. Whole lot of money instead, it keep coming forever. I'm living my life like a beetle.